La radio BFM, Radio Pulsar et RIG vous présentent l'émission sur le réseau des indépendants de la musique.
Donc on va essayer de parler effectivement de ce contrat de filière qui était à l'honneur aujourd'hui pour cette assemblée générale. Un contrat de filière qui remonte à 2017, c'est bien ça ?
2015.
Ouais.
La préfiguration.
Les prémices.
Ouais.
L'étape d'après, c'était en 2017.
2016, on refait une année en version grande région.
Oui. Parce
qu'entre-temps, on avait initié en fait le contrat en 2015, à l'époque de l'ex-Aquitaine. 2016, on transforme l'essai en version Nouvelle-Aquitaine. Et puis 2017, c'est le contrat de filière en tant que tel, signé avec la ministre de l'époque.
Il y a beaucoup de vocabulaire.
Oui.
Un peu complexe. Ne serait-ce déjà que le contrat de filière. Donc un contrat de filière, comme son nom l'indique, c'est un contrat passé entre différents agents économiques. En l'occurrence, les agents économiques sont les professionnels des musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine. On est bien d'accord ?
Oui.
Donc ça englobe, par exemple, les tourneurs, les salles de musique actuelle, les gens qui font des disques, qui les distribuent, tout ce milieu-là, voilà, qui concerne combien de personnes en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'il y a un chiffre ?
Ouais, ça fait un peu plus de 3000 opérateurs, si on prend la filière au sens la plus large, y compris avec des luthiers... Facture Mogin ici, oui. qui est dans la filière. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes jargonnants, mais globalement, dans le milieu de la culture, il y a aussi beaucoup de jargon. C'est vrai que déjà rien que le terme musique actuelle, on s'est mis d'accord sur ce terme dans les années 80, fin des années 80. Personne, aucun artiste se revendique d'être un artiste de musique actuelle.
C'est vrai.
On fait du rock, on fait du reggae, on fait de la musique électro.
Et après, il y a eu les gens qui ont fait du jazz qui ont dit « Eh, nous aussi !»
Il y avait les jazzeux qui faisaient leur jazz.
C'est un truc d'opérateur, ça.
Oui, ça a été un terme qui a été inventé par un sociologue et qui a permis de trouver, on va dire, un consensus entre à la fois les acteurs de la filière et puis les collectivités. Ça permettait de penser qu'on arrivait à parler de la même chose à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un terme, encore une fois, qui est juste un terme d'usage. Et dans l'absolu, c'est pas grave. Comme le terme contrat de filière, ça fait un peu barbare. On peut avoir l'impression qu'on parle industrie, puisque ce terme de contrat de filière, il a été inventé par l'industrie. L'idée, elle est toute simple. C'est-à-dire qu'on avait une hétérogénéité dans ce secteur, à la fois sur les esthétiques. On avait les jazzeux et les musiques trad qui sont dans la famille des musiques actuelles et puis tous les derniers mouvements. On a des acteurs très différents, on a des modèles économiques différents, c'est-à-dire qu'on a effectivement des associations qui pour certaines sont soutenues par les collectivités, d'autres qui vivent du bénévolat, qui vivent de leur modèle économique, c'est-à-dire la vente de spectacles, la diffusion et tous ces acteurs-là à un moment donné sont quand même d'une manière ou d'une autre interdépendants, y compris avec les grands groupes internationaux qui ne défendent pas forcément les mêmes valeurs que nous tous, mais on est dans la même filière. Et donc cette interdépendance, bah, de temps en temps, il faut qu'on arrive, quand on est collectivité locale, à se dire que peut-être il faut réguler pour défendre des valeurs communes. Et l'intérêt du contrat de filière, c'est ça, c'est de savoir si on a des valeurs qui nous sont communes, ce qu'on appelait ce matin l'éthique. Certaines éthiques, quand on parle de maintien de la diversité culturelle, de la diversité musicale, je veux dire, ça c'est quelque chose de simple. On a des vrais phénomènes de concentration, on a des musiques qui sont de moins en moins exposées. Un contrat de filière, c'est permettre de réguler tout ça et c'est de se dire que tout le monde a sa place et c'est essayer de trouver effectivement des solutions pour que tout le monde puisse être présent et défendre, encore une fois, un certain nombre de valeurs qui nous sont chères. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en commun dans ce contrat de filière.
Donc il y a eu beaucoup de discussions entre les acteurs, les collectivités. Voilà, beaucoup de choses ont essayé d'être mises en place. La finalité, c'est en 2019, donc, en l'occurrence. Quels sont donc que représente ce contrat de filière, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'inscrit, concrètement, là ?
Alors,
en faisant très très simple, bien entendu.
Alors, pour faire très simple aussi, c'est de la mobilisation d'argent public. Pendant très longtemps, les musiques actuelles ont été les laissées pour compte des politiques culturelles. On l'évoquait tout à l'heure, on évoquait Malraux. La doctrine Malraux, ça a été, et c'est très bien pour la politique française, mais ça a été d'aider le théâtre, d'aider ce qu'on appelle les musiques classiques. Pareil, ça c'est un terme très enfermant qui n'a pas beaucoup plus de sens que musique actuelle. Mais c'est vrai que ces musiques dites actuelles ont été pendant très longtemps les parents pauvres, avec des financements qui étaient très faibles et du côté de l'État et du côté des collectivités territoriales. Donc il y avait aussi une façon de dire on va donner de la légitimité à ces acteurs. Parce qu'en termes de pratique culturelle, on le voit bien, c'est la première pratique en termes d'écoute ou de pratique musicale des Français. Ce sont les musiques actuelles, au sens large. Donc à un moment donné, on ne peut pas être à l'écart de ce que sont ces musiques vis-à-vis des populations. Donc la volonté, c'était un, de les reconnaître, de leur donner une légitimité, et deux, de leur donner les moyens nécessaires à leur développement. La plupart des acteurs ici, ils ne vivent pas de fonds publics, hein, c'est totalement faux. Hein. La plupart du temps, ils sont à plus de 50, 60% d'activité propre, encore une fois, de vente des spectacles. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est pour ça, quand on parle de pluralité des modèles économiques, c'est parce qu'effectivement, ce secteur a fait sans l'argent public. Et aujourd'hui, c'est que fait-on de cet argent public ? Où est-ce qu'on le met ? Et ce que la région a souhaité faire, c'est de dire, voilà, on défend un certain nombre de modèles. Cette fameuse diversité des esthétiques, pouvoir permettre, encore une fois, à des musiques qui sont de moins en moins exposées, de pouvoir continuer à être créées, diffusées sur le territoire, diffusées à la fois dans des lieux de spectacle vivant, dans des salles, dans des festivals, mais aussi continuer à avoir des producteurs phonographiques, des gens qui font encore du disque, avec un support physique ou sans support physique, mais des gens qui ont encore un vrai rôle d'accompagnateur d'artistes, ça c'est des choses que l'on a inscrites dans le contrat de filière, que l'on a discuté avec les acteurs et qui concrètement s'est transformé par des dispositifs publics. On soutient les labels et on soutient les labels quelles que soient, entre guillemets, les esthétiques qu'ils défendent. Et des labels qui ont fait le choix d'être présents sur le territoire et qui ne sont pas dans un secteur quand même qui est très concentré, encore une fois, en région parisienne.
Exactement. Sarah ?
Oui, donc vous discutez avec donc les labels hein, qui ont choisi d'être ici, sur ce territoire. Vous discutez avec des opérateurs. Est-ce que vous discutez aussi avec les artistes eux-mêmes ? Est-ce qu'ils sont pris en compte aussi dans ce contrat de filière ? Parce que finalement, eux aussi, ce sont des acteurs majeurs, finalement essentiels pour les musiques actuelles. C'est-à-dire
oui,
que
sans eux, il n'y aurait
sans
rien.
Sans eux, c'est compliqué.
Eh bien, c'est la partie la plus compliquée. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est peut-être ce qu'on a le moins réussi depuis qu'on a lancé ces opérations. Ça date de 2004-2005, où on a commencé à travailler en Aquitaine et puis maintenant dans ce nouveau territoire. On a toujours essayé d'associer les artistes. On a des artistes qui sont présents, mais par rapport à leur nombre, effectivement, ils sont beaucoup moins présents. Il y a peu de représentations syndicales. Il y a une guilde des artistes qui s'est créée au niveau national, qui s'appelle La Gamme, avec qui on est en lien. Mais c'est vrai que globalement, on a du mal à accrocher les artistes en tant que tels. On y arrive quand on est sur des concertations très spécifiques qui vont les toucher directement. Quand on est sur une journée comme ce matin, beaucoup plus généraliste, où on évoque effectivement le contrat de filière dans sa globalité, bah on le voit, les artistes sont très peu nombreux. Et ça, c'est ce qui manque. Voilà, ça fait partie des petits ratés que l'on a. On essaye d'améliorer les choses. On y arrive de temps en temps. C'est vrai que je l'évoquais avec les labels, quand on avait fait une concertation avec les labels, du coup ils étaient venus aussi avec des artistes qui étaient signés chez eux, accompagnés par eux, mais on était du coup en format beaucoup plus restreint, et là on avait des paroles d'artistes, et c'était intéressant de voir ce que l'on pouvait faire, et y compris pour des artistes, de comprendre qu'au final il y avait quand même des gens qui bossaient pour eux, sans qu'ils le sachent, forcément. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que le plus dur, alors, c'est sur le champ des musiques actuelles, on a exactement la même difficulté quand on est sur le. On travaille beaucoup sur un autre contrat de filière qui est celui du cinéma. On est en lien avec les producteurs, on est en lien avec les distributeurs, avec les diffuseurs, avec les salles. Et c'est vrai qu'on a du mal à mobiliser les acteurs en tant que tels pour qu'ils aient une parole publique. Donc voilà, ça fait partie des choses, des améliorations qu'on essaye d'avoir systématiquement.
Le contrat de filière a été signé en 2019, c'est un travail de longue haleine. Est-ce que c'est dû justement à une non-reconnaissance des acteurs des musiques actuelles, à savoir que, est-ce que c'est aussi un problème générationnel ? Il aura fallu attendre peut-être qu'une certaine génération soit élue pour reconnaître effectivement les acteurs des musiques actuelles par rapport à un vrai métier et non pas par passion, puisque je le dis et je témoigne de la part de politiques qui prenaient ça plus pour une passion d'adolescent que par un vrai métier.
Oui, et puis on a longtemps cantonné, on parlait des musiques actuelles, c'est les musiques pour les jeunes. Sauf que ça, c'est terminé. À la fois, quand je disais les musiques traditionnelles, elles sont là depuis des temps ancestraux. Le jazz a plus de 120 ans, le rock'n'roll, on aime bien les anniversaires, le rock'n'roll a plus de 60 ans, 70 ans. Donc on est quasiment, ce sont des musiques qui rentrent presque dans le patrimoine. On a ici un certain nombre d'acteurs qui ont été des militants dans les années 70, qui ont construit des salles, qui ont construit des festivals, qui ont monté des sociétés de production, d'accompagnateurs d'artistes, et qui auront fait, entre guillemets, une carrière entière et qui vont bientôt partir à la retraite. C'est la première génération que l'on voit comme ça, qui a réussi à construire une carrière, même si le terme, effectivement, ne serait pas revendiqué. Il n'empêche que, voilà, ils ont fait leur vie professionnelle dans un établissement qu'ils ont construit de manière très militante, en gardant des convictions, encore une fois, très militantes. Mais c'est cette première génération-là. Encore une fois, ouais, il y a eu un... Il a fallu longtemps pour engager effectivement ce moment de reconnaissance. Moi, je l'ai fait avec Alain Rousset à l'époque, c'était en 2004, quand je suis devenu élu. J'avais été l'un des cofondateurs du Garo Rock. C'est comme ça que j'ai rencontré Alain Rousset. J'étais engagé politiquement, mais c'est comme ça qu'il m'a repéré. Et il souhaitait qu'on puisse construire une politique sur ces musiques. Il a toujours eu du mal, Alain Rousset, à dire les musiques actuelles. Parler de musique nouvelle, voilà, mais en tout cas, il me disait, il faut qu'on arrive à monter des politiques pour reconnaître effectivement ces acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ça y est. Et la force du contrat de filière, c'est aussi de dire que ces acteurs-là ne sont pas que des acteurs de la création, ce sont aussi des acteurs économiques. C'est important de les reconnaître comme étant des gens qui produisent de la valeur sur... de la valeur artistique, mais également de la valeur économique sur un territoire, et qu'à ce titre-là, ils doivent être regardés et qu'on doit pouvoir les accompagner autrement que par les dispositifs culturels. Donc l'intérêt du contrat de filière, c'est aussi ça, c'est de dire des politiques autour de l'export, des politiques sur le numérique, parce que quand même, le numérique a largement impacté
en 2019,
la vie des artistes depuis un certain nombre d'années. Sur la distribution, sur la façon de consommer de la musique. Il y a aujourd'hui besoin régulièrement d'apprendre à des jeunes à venir dans des salles parce qu'ils n'ont plus cette habitude-là. On prend l'iPhone, on prend la tablette, on regarde des clips, on voit des spectacles qui sont retransmis. Ouais, sauf que l'expérience du live, de l'artiste, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder. Présence dans un festival, d'avoir une continuité en ayant des plateaux artistiques qui ont été composés par des directeurs artistiques, ça a aussi du sens. Donc c'est tout ça qu'on essaye de travailler. Alors, encore une fois, on peut utiliser des termes un peu jargonnants, mais c'est rien de plus que ça. Organiser effectivement un accompagnement de l'ensemble des acteurs de la filière, y compris des acteurs qui étaient peu présents dans le dialogue avec les politiques publiques. Hein.
Ouais.
Des gens qui considéraient que ils faisaient leur business dans leur coin et qu'ils n'avaient pas forcément besoin de financement public.
Alors moi, je vais juste une dernière question. C'était déjà, est-ce qu'il existe des contrats de filière signés dans les autres régions en France ?
Oui. Oui. Bon, le premier qui a été initié, c'était effectivement ici en Nouvelle-Aquitaine. Et c'était une vraie initiative de la région avec le directeur du Centre National des Variétés qui avait compris notre volonté de mettre en place des expérimentations qui ne soient pas des dispositifs plaqués de Paris qui descendent sur les territoires. Et c'est grâce à lui qu'on a réussi à lancer ce contrat et à lui faire comprendre qu'il y avait un véritable effet levier qui pouvait être joué en Nouvelle-Aquitaine, mais forcément ailleurs. Et que les contrats qui se construiraient ailleurs seraient construits différemment, parce que l'histoire des territoires, elle est différente d'un endroit à un autre, et que l'essentiel, effectivement, c'était de pouvoir se dire voilà, qu'on allait expérimenter d'une région à une autre des choses, des politiques publiques qui ne se ressemblaient pas, et c'est pas forcément grave. Elle est adaptée, encore une fois, à l'histoire, à la typologie des acteurs présents.
Ouais, au territoire,
il y a des acteurs, il y a des territoires, comme PACA, où il y a beaucoup plus de festivals qu'il y en a ici en Nouvelle-Aquitaine, mais par contre, il y a beaucoup moins de salles, il y a moins de labels, il y a des endroits où c'est totalement différent. Donc voilà, c'est comment on s'adapte au territoire. Et peut-être la spécificité de la Nouvelle-Aquitaine, ça a été ce travail autour de la co-construction, qui est un terme, là encore une fois, qui peut paraître barbare, mais qui a été la volonté politique de dire aux acteurs, vous aurez la même place autour de la table que nous, politiques, que nous, collectivités territoriales. Et quand on va écrire les dispositifs, vous allez tenir le stylo de la même manière que nous. Et on va co-écrire les dispositifs. ça a fonctionné. C'est rassurant pour les élus aussi, parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'il y a une co-responsabilité. Si on se plante parce que le dispositif, on l'a mal pensé, ou qu'on l'a pensé à un moment où il était pertinent, et puis 2 ans après, bah, les choses ont évolué, ça ne fonctionne plus, c'est pas les mauvais élus avec leur administration qui se seront plantés, c'est une responsabilité collective, et on se remet tout de suite à la tâche pour améliorer les choses, changer le dispositif, en inventer un autre. Et donc c'est aussi un rapport aux politiques qui, à mon avis, est beaucoup plus sain, le fait qu'on puisse être à égalité autour de la table.
Oui, effectivement, et je me permettrai de terminer cette discussion avec le sujet avec lequel nous avons commencé, à savoir le Centre National de la Musique, puisque là encore, c'est quelque chose de très récent, mais qui prouve une fois de plus que les musiques actuelles sont en train d'évoluer, essayent de trouver une forme de structuration qui, là, en l'occurrence, se rapproche de celle du cinéma. Quel est votre point de vue ? Puisque là, on vient d'évoquer un rapport aux politiques et aux acteurs assez égalitaire. Et en l'occurrence, on peut s'apercevoir très rapidement que le CNM s'annonce différemment.
C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'aberrant dans l'histoire de ces musiques. C'est qu'on avait un Centre National des Variétés qui avait été construit uniquement autour du spectacle vivant, de la musique live, et que l'industrie du disque... Et quand je dis industrie, ça comprend aussi la multitude des labels indépendants qui sont très loin du monde de l'industrie, hein, qui sont ce qu'on aime bien, nous, on appelle ça des artisans de contenu, quoi, des gens qui sont sur les territoires, dont la recherche de profit est quand même quelque chose d'assez éloigné, et qui sont les vrais défricheurs, qui vont chercher des artistes, qui accompagnent l'émergence, aussi de nouvelles esthétiques musicales. Et ce monde du disque et ce monde du live étaient complètement séparés en France. À la différence du cinéma qui, après-guerre, alors c'est vrai que c'est une autre histoire, mais avait construit un établissement public puissant où on retrouvait la totalité de la filière. Des auteurs scénaristes, en passant par les réalisateurs, les producteurs de films, l'ensemble des sociétés de production, mais également les cinémas, que ce soit les multiplex ou les salles indépendantes. Et tout le monde était réuni dans ce CNC, qui a réussi à construire effectivement des dispositifs de financement très très importants. Et on avait un tout petit CNV, voilà. Donc on s'est battu, t'es quelques-uns depuis plus de 12 ans, à essayer effectivement de défendre un autre modèle, ce qu'on a appelé à un moment donné une maison commune de la musique, pour que tout le monde s'y retrouve, que la question de la régulation que j'évoquais tout à l'heure soit aussi traitée au niveau national. Qu'il y ait des multinationales du disque, moi ça me pose pas de soucis. Ça me pose souci quand il n'y a que des multinationales et qu'on voit crever les uns après les autres les labels indépendants. Parce qu'encore une fois, ce travail d'émergence, il n'est pas fait par les multinationales. Les multinationales, elles récupèrent les artistes qui ont réussi à émerger. Voilà. Mais ce travail d'émergence, il faut qu'il soit fait par quelqu'un. Donc, il y avait une vraie nécessité à avoir un établissement public. Ça y est, il a été voté. Donc, il va se mettre en place au mois de janvier. Reste à déterminer effectivement ses missions réelles et comment la répartition va se faire. Si on retrouve encore une fois uniquement les gros, bah, ce sera un échec. Oui. Si on a la totalité de la filière, on aura un vrai lieu de débat et d'élaboration, comme on peut l'avoir ici en région avec le contrat de filière.
Mais dans ce cas-là, quelle est la marge de manœuvre ?
C'est de l'action politique. Certains appellent ça du lobbying, moi je parle...
Oui, on peut appeler ça du lobbying ou de l'action politique,
C'est la volonté, effectivement, de reconnaître la filière, encore une fois, dans sa grande diversité, et que tout le monde puisse être autour de la table. Et si l'État a encore une place aujourd'hui en France, voilà, moi je suis un décentralisateur, j'ai travaillé auprès d'Alain Rousset parce que je me reconnais, effectivement, dans cette volonté de reconnaître les territoires comme étant, effectivement, des gens qui peuvent produire des choses, et que tout ne se décrète pas de Paris. Mais si l'État a encore une place importante, et le ministère de la Culture, c'est justement pour organiser cette régulation au niveau national et avoir un CNM qui soit représentatif, encore une fois, de la totalité de la filière. Voilà, c'est le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, avec main dans la main avec les acteurs. Et des journées comme celle-ci, ça sert à cela, à se conforter, encore une fois, sur l'éthique commune que l'on partage. Et des combats qu'on fait remonter quand on est présent à la capitale.
Merci beaucoup, j'aurais bien,
merci à vous.
J'aurais bien aimé avoir eu le point de vue de l'assassin par rapport à ça.
Oui, c'est vrai, ils nous ont un peu manqué aujourd'hui,
ouais,
tu vois.
On les appellera, écoute, ils nous manquent tellement. Merci beaucoup, monsieur Bitcock, d'être passé ici. Merci. Même donc, au sein de cette émission.